Alors, on va revenir sur plusieurs mots. D'abord, au verset 12, la montagne. Alors, vous le savez sûrement, hein, que symboliquement, la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et de fait, c'est sur une montagne que l'ange va intervenir auprès d'Abraham pour remplacer le sacrifice d'Isaac par le sacrifice d'un bélier. C'est aussi sur une montagne que Dieu donne les tables de la loi à Moïse. Et puis, c'est aussi sur une montagne que Jésus sera transfiguré en ayant à ses côtés deux personnages dont on a déjà parlé plusieurs fois, Moïse et Élie. Donc la montagne, le lieu de la rencontre avec Dieu, et c'est l'endroit où Jésus va pour prier. Verset 13, « Il donna le nom d'apôtre ». Eh bien, apôtre, c'est... Alors c'est un peu compliqué. Ce qui est dans le texte, c'est un substantif qui est apostolos. Mais en fait, c'est un mot, un terme grec qu'on ne retrouve pas forcément dans un grec, on va dire, classique ou littéraire. Donc il va falloir aller chercher quelle est la racine de ce mot apostolos. Et donc, c'est apostolo. Et apostolo, ça veut dire envoyer. Donc le verbe envoyer. Donc si on le remet en substantif, ça veut dire que les apôtres sont des envoyés. Ensuite, au verset 14, donc là on a la liste des apôtres, le premier Simon, auquel il donna le nom de Pierre. Donc vous vous rappelez, on avait vu, à un moment donné, pour marquer la conversion de Simon, Luc l'avait appelé Simon-Pierre. Donc on voit à quel moment est-ce que Jésus donne en réalité le nom de Pierre à Simon, c'est lorsqu'il l'institue apôtre. Jésus donne à Simon le nom de Pierre. Pierre, en grec, pétron, ça veut dire le roc. Et on verra tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus, mais donc je vous le dis maintenant. Ensuite, Jésus, dans son discours, là, va parler de la maison qui est bâtie sur le roc. Le terme qui est utilisé pour roc, c'est aussi pétron. Parce que le prénom que Jésus donne à Pierre, c'est pas un prénom en fait. C'est comme si on s'appelait Caillou aujourd'hui. Et donc le prénom Pierre naît vraiment avec Pierre, Saint-Pierre. Ensuite, pour revenir sur un autre prénom, au verset 15, Matthieu. Parce que si l'on s'en tient à Luc, il existe un Matthieu apôtre et un Lévi qui a été appelé et qui est collecteur d'impôts. Donc deux prénoms qui peuvent désigner deux personnes. Et en fait, il faut rapprocher le récit de Luc avec celui de Matthieu, l'évangéliste, pour permettre de rapprocher Lévi et Matthieu l'apôtre. On lit, j'ai repris les deux versets pour vous montrer en fait à quel point ils sont similaires. Chez Luc, on va lire ceci. Après cela, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi », abandonne tout, l'homme se leva et il le suivait. Et chez Matthieu, donc chapitre 9, verset 9, on lit « Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi », l'homme se leva et le suivit. » Donc on voit comment est-ce que les deux récits sont pas identiques, évidemment, mais en tout cas sont très proches. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir rapprocher Lévi et Matthieu. D'autant plus que dans les deux récits, que ce soit celui de Matthieu ou celui de Luc, ça se poursuit par un repas, avec la même controverse autour de manger chez les pécheurs qui est faite par les pharisiens. Donc, l'idée, c'est la suivante. C'est de dire que ces deux personnages ne font probablement qu'un. Donc comment est-ce qu'on explique que ces deux il y ait un personnage avec deux prénoms, deux appellations? Peut-être que c'est Simon-Pierre qui peut nous y aider, pour le coup, parce que tout comme Simon est appelé Pierre, eh bien, on peut penser que Lévi, au moment où il quitte sa condition de publicain, au moment où il se convertit, pourrait très bien soit avoir reçu, soit avoir choisi un nouveau nom. Et en l'occurrence, celui de Matthieu, ce qui serait très beau, puisque Matthieu, en hébreu, ça signifie « don de Dieu ». Et enfin, la dernière remarque, dernière note par rapport au texte, qui est la centième depuis le début. Je les numérote au fur et à mesure. Donc c'est la centième. Et bien, la centième est décernée aux zélotes. Qu'est-ce qu'un zélote? Donc les zélotes, c'est des hommes qui font partie d'un mouvement qui est proche des pharisiens, on va dire, quant à la foi et quant à la pratique de la foi, mais qui, en revanche, s'en éloigne dans son action vis-à-vis de l'Empire romain. Parce qu'ils refusent totalement l'autorité des Romains et ils le font savoir notamment par la force armée. Et donc, dans les antiquités juives toujours, voici ce qu'en dit Flavius Josèphe. La quatrième secte philosophique. Ah oui, donc tout à l'heure, je vous disais les trois grands courants aux trois grandes sectes. Ici, vous voyez bien qu'il a place en quatrième. C'est quand même un peu à part. La quatrième secte philosophique eut pour fondateur ce Judas le Galiléen. Ces sectateurs s'accordent en général avec la doctrine des pharisiens. Mais ils ont un invincible amour de la liberté, car ils jugent que Dieu est le seul chef et le seul maître. Les genres de mort les plus extraordinaires, les supplices de leurs parents et de leurs amis les laissent indifférents, pourvu qu'ils n'aient à appeler aucun homme du nom de maître. Comme bien des gens ont été témoins de la fermeté inébranlable avec laquelle ils subissent tous ces maux, je n'en dis pas davantage, car je crains non pas que l'on doute de ce que j'ai dit à leur sujet, mais au contraire, que mes paroles ne donnent une idée que trop faible du mépris avec lequel ils acceptent et supportent la douleur. C'est épique, hein ? Eh bien, Jésus en a choisi un. Alors, parlons justement maintenant de cette fine équipe, l'équipe des 12.
Pardon, Iscariote, ça veut dire quoi ?
Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, mais la plus courante, ce serait le menteur. Ça viendrait de l'araméen. Alors, ce qui fait dire justement à plusieurs exégètes que si c'est bien le menteur, c'est-à-dire que c'est probablement pas son nom. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas de nom, on était fils de. Mais ce serait un titre qui lui aurait été ajouté a posteriori par les évangélistes. Alors on voit que Luc précise que Jésus a prié pendant toute la nuit. Donc le but de Luc, hein, c'est pas tant de mettre en avant l'esprit d'ascèse de Jésus qui peut passer une nuit entière à prier, qu'en réalité le caractère décisif de ce qui se joue à l'instant et du lien unique et profond qui unit le Fils au Père. Et donc de cette prière, eh bien, va naître un choix qui est donc un choix divin et il va se mouvoir en un appel, l'appel de quelques hommes, pour être précis, de 12, comme les tribus d'Israël. Et ces tribus d'Israël, eh bien, elles ont été bénies et envoyées par Moïse vers la terre promise, juste avant sa mort, et il est mort sur une montagne, sur le mont Nebo. Donc c'est intéressant, pourquoi ? Parce que à ce moment-là, on est sur une montagne, on l'a déjà dit, et puis, tout comme Moïse envoie les 12 tribus vers la terre promise, eh bien là, Jésus redescend de la montagne avec les apôtres, et les apôtres ont dit que ce sont des envoyés. Donc il va les envoyer, non pas en tant que tels vers la terre promise, mais vers l'annonce d'une autre terre promise, la vraie terre promise, le royaume. Et parmi les 12, qui sont des appelés envoyés, eh bien, il y a une importante diversité. Même s'ils sont tous juifs, on voit bien qu'il y a des prénoms hellénisés, et puis, par exemple Philippe, hein, et puis il y a la plupart des prénoms qui, eux, ont une consonance sémite. Si Lévi est bien Matthieu, dans ce cas-là, on a à la fois un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui a collaboré avec l'Empire romain, et puis on a aussi un zélote qui, lui, ne supportait pas la présence des Romains sur son territoire. Et puis, même si on ne connaît pas le métier de chacun d'entre eux, le simple fait de savoir que Pierre, André, son frère, Jacques et Jean étaient des pêcheurs, et que si Lévi et bien Matthieu, il y avait un collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il y a aussi une diversité de métiers. Et puis, j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément très juste, mais une diversité d'alphabétisation. C'est-à-dire que on n'est pas sûr que, enfin, si on est même sûr que tous les apôtres ne savaient pas écrire en tant que tels. On pense par exemple que Marc écrit son évangile par rapport aux prédications de Pierre qu'il avait accompagné. Et Pierre n'a pas écrit lui-même un évangile. À côté de ça, Matthieu, si c'est le collecteur d'impôts, c'est effectivement un lettré, et lui, il écrit un évangile. Comme Luc est un lettré, et il écrit un évangile. Et puis si on veut faire un petit parallèle avec les premiers versets de l'évangile, vous vous rappelez, dans la préface, Luc dit s'appuyer sur des témoins oculaires et serviteurs de la parole. Ben voilà, on a les noms, les témoins oculaires de Jésus, on en a en tout cas 12 prénoms, ce sont les apôtres, et effectivement ce sont des serviteurs de la parole. Bon, on peut mettre une petite réserve pour Judas, pour serviteur de la parole, mais en tout cas, il a été appelé.